Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio TerraZen et vous écoutez l'émission Les Histoires du soir, avec Olivier. Et ce soir, nous sommes le 24 novembre 2016, il est un peu plus de 21h, et nous allons parler ensemble des Cathares, le catharisme. Voilà quelque chose qui va nous faire plonger aux alentours du 10e, du 11e siècle de notre ère. Une aventure qui se situe pas très loin de l'an 1000, un peu plus, un peu avant. Et surtout, d'un mouvement qui est quand même situé dans le sud, hein, et certainement concentré dans la région des Pyrénées, dans le sud, sud-est, sud-ouest de la France, et qui, à l'origine, d'une part, correspond en fait à un mouvement religieux, hein, bien sûr, puisqu'on va voir en détail ce soir de quoi il s'agit, et puis aussi un mouvement qui va devenir quasiment un fait de société, va aller quand même jusqu'à entraîner une croisade au XIIIe siècle, une croisade que l'histoire a retenue comme étant la croisade contre les Cathares, la croisade contre les Albigeois, qui sera quand même la seule de toutes les fameuses croisades de la période qui sera dirigée contre des chrétiens quand même, et qui ne se passera pas dans la sphère du Proche-Orient ou du Moyen-Orient, ça dépend de quel point de vue on se place, c'est-à-dire de la Terre Sainte. Alors, c'est un peu de cela dont on va parler dans cette émission. Alors, Cathare, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot d'origine grecque, qui veut dire « katharos ». Et « katharos », ça veut dire « pur ». Les purs, une spiritualité qui est apparue donc à l'époque médiévale et qui s'inscrit dans le christianisme. C'est un monothéisme, nous dit le dictionnaire, un monothéiste dualiste, qui se développe donc entre le Xe et le XIVe siècle dans plusieurs régions d'Europe. À l'origine de ce mouvement qui distingue deux catégories de personnes, les bons hommes et les bonnes femmes, il y a d'une part, pour commencer, une doctrine. Une doctrine qui explique que le monde a été créé par un demiurge, que le monde est principalement constitué par un univers de tentations, bien sûr. Et puis, de l'autre côté de ce monde, on a un paradis où se réside le bien. Et au milieu de tout ça, le corps physique, c'est le siège de l'âme, l'âme qui est constamment tentée entre le bien et le mal. Et toute la doctrine est évidemment cette lutte perpétuelle entre les forces matérialistes du mal et la tentation, évidemment, les tentations que ça représente, et puis bien sûr l'esprit qui lui a tendance à tendre vers le bien. Alors, il y a dans ce monde de cette religion, de cette mouvance cathare, hein, deux types de personnes, hein, d'adeptes, si on peut dire. D'une part, il y a les adeptes de base, hein, c'est-à-dire les fidèles, hein, qu'on appelle les bons hommes ou les bonnes femmes. Et puis, au-dessus, il y a un genre de clergé, hein, que l'on appelle les parfaits. Parfaits, qui sont ceux qui ont reçu le plus important des, comment dire, des sacrements, hein, si on peut dire, de la religion cathare, qu'on appelle le consolamentum, hein, c'est-à-dire ce baptême par l'imposition des mains, qui permet, hein, tout simplement à ceux qui l'ont reçu de devenir des parfaits, hein, et ensuite donc de pouvoir donc ensuite entamer une prédication. Alors, où tout cela se déroule principalement pour notre émission de ce soir? Bah, ça se déroule principalement dans ce qu'on appelle l'Occitanie, hein, c'est-à-dire toute une région où se trouvent les villes comme Toulouse, Béziers, Albi, Carcassonne. Hein. Et comme on l'a dit tout à l'heure, hein, ça se développe donc à partir du Xe siècle, hein, c'est-à-dire les années 900 et quelques, hein, c'est-à-dire quand même dans ce qu'on appelle, ce que l'histoire retient encore aujourd'hui comme étant le Haut Moyen-Âge. Hein. Et puis, bah, le grand coup d'arrêt, c'est 1209, hein, et cette fameuse croisade contre les Albigeois, hein, dont, évidemment, cela va m'occuper une bonne partie de l'émission de ce soir. Alors, afin de poursuivre notre présentation, hein, il y a plusieurs théories, hein, sur l'apparition des cathares. Hein. Alors, une première théorie, et c'est fort intéressant, les fait remonter à ce qu'on appelle le bogomilisme, hein, c'est-à-dire une doctrine manichéenne qui serait apparue dans les Balkans, hein, dans le sud-est européen, plus précisément, ce qu'on appelle les Balkans de l'Est, hein, c'est-à-dire les Balkans orientaux, c'est-à-dire en Bulgarie. Bulgarie, qui, comme vous le savez, chers amis, est un pays qui occupe beaucoup mon intérêt, hein, depuis bien longtemps, davantage pour l'histoire contemporaine, hein, mais il y aurait une origine, hein, venant des Bogomiles, au sujet des cathares. Parallèlement à cela, bah, il y a donc comment dire, ça se répand, hein, donc dans l'Occident, dans la fameuse Occitanie dont j'ai parlé tout à l'heure, vers l'an 1000, et on a même une persistance, hein, du catharisme jusqu'au XIVe siècle, voire même jusqu'à aujourd'hui, hein, puisque, en fait, hein, l'Église cathare, hein, tout simplement, donc s'est perpétuée donc jusqu'au XIVe siècle, mais même ensuite, à partir du XIXe siècle, hein, où elle a tendance à réapparaître, hein, notamment dans tout ce que l'on appelle les mouvements néo-cathariste, les mouvements de néo-spiritualité, etc. Hein. Tout cela donc est vraiment tout à fait important, hein, en ce qui concerne donc les cathares. Hein. Alors, également. Donc, dans la carte, hein, du catharisme à cette époque-là, on dénombre à peu près 800 églises, hein, en France, hein, 800 églises au XIIIe siècle, hein, c'est tout à fait important, hein, sur des structures indépendantes. Hein, et l'idée est évidemment de vivre donc comme les premiers chrétiens, hein, par exemple. Donc ça, c'est vraiment important, hein. Vivre comme les premiers chrétiens et également donc les principales idées, hein, de cette doctrine cathare. Donc il n'y a pas de théologie. Le Nouveau Testament est au centre, hein, de cette église. C'est principalement l'évangile de Saint Jean. Hein. Également des écrits parallèles comme Paul de Tarse, Marcion également, et tout cela baigné profondément dans la pensée gnostique. Dans la foi cathare, hein, est basée sur l'idée que Dieu est profondément ce qui est le bon, hein, le néant, bah, c'est le mal, hein, bien sûr, et le monde, hein, c'est un univers qui se partage, comme j'ai dit tout à l'heure, entre le bien, hein, et le mal. Également, L'homme, lui, eh ben, est partagé hein, entre ce bien et ce mal, hein, tout à fait. Et donc, la foi cathare elle-même ben, est un peu, de manière dont on la pratique, chargée d'être une espèce de purgatif, hein, en quelque sorte, un purgatif hein, qui permettrait à l'homme, tout simplement, de tendre vers le bien et de vaincre hein, définitivement cette tendance vers le mal. Alors, la vie du cathare est basée sur un régime strict. Hein. Souvent, on l'a dit, c'est un régime de type, comment dire, végétarien. Hein. Et puis, donc, la fidélité entre hommes et femmes est fortement, évidemment, conseillée, encouragée. Hein. Et puis, bien sûr, le clergé, hein, dont on a parlé tout à l'heure, bah, est chargé vraiment de guider le peuple hein, vers, comment dire, le peuple de fidèles hein, vers le bien. Le Christ lui-même est considéré comme le Fils de Dieu, c'est le messager, mais Marie, hein, la Sainte Vierge, elle est considérée comme la mère du Christ, d'accord, mais pas comme étant celle qui a enfanté, hein, en quelque sorte, Jésus. Le seul vraiment sacrement, bah, c'est le baptême par l'imposition des mains, hein, ce qu'on appelle le consolamentum. Et le rite, hein, c'est-à-dire la pratique hein, de la religion cathare, bah, c'est de faire une seule prière par jour. Hein, donc, notre Père, hein, il y a un seul sacrement, qui est le baptême. Seul le pain est béni. Hein, et bien sûr, on retrouve des sacrements simplifiés comme le mariage hein, et la médiation des saints. Alors, le consolamentum, donc c'est vraiment l'imposition des mains, hein, c'est une sorte vraiment de pratique fréquente chez les cathares, hein, et cette imposition des mains se fait donc notamment avec donc sous le comment dire le, la caution hein, de l'évangile ouverte à celle de Saint Jean. Alors tout ça voilà, donne une image hein, assez rapidement de ce qu'est le catharisme. Hein. Et parallèlement à cela, on peut parler aussi hein, eh bien, de leur vie quotidienne. Parce qu'en effet, les cathares hein, ont un modèle économique différent. Hein. C'est un modèle économique qui est plutôt opposé à la propriété privée. Alors que tout ce Moyen-Âge du Xe, XIe siècle, qui est un Moyen-Âge occidental, il faut bien le comprendre, qui est principalement basé hein, sur, en quelque sorte, comment dire, un Moyen-Âge qui a mis un terme à une première tentative impériale, hein, qui a été l'épopée carolingienne hein, au siècle précédent, au IXe siècle. Hein, et l'effondrement hein, de l'Empire carolingien bah, a permis hein, tout simplement de voir émerger un monde profondément libéral économiquement, profondément indépendant, hein, avec une myriade, hein, on le sait, une myriade de petits fiefs divers et variés. Et donc, en cela, le modèle économique cathare, hein, si on peut dire, bah, est un modèle économique qui est complètement à l'encontre hein, de la société de l'époque. Et c'est peut-être ça, en plus, si je puis dire, de l'aspect religieux qui, dans un monde profondément catholique et dominé vraiment par un monde religieux très pyramidal, hein, dans lequel on ne se pose pas de questions, hein, eh bien, évidemment, ça va ouvrir hein, un deuxième volet, hein, si je puis dire, de la contestation, hein, de la contestation que le modèle dominant va avoir, à la fois problème, évidemment, de rivalité religieuse, on en parlera tout à l'heure, mais aussi tout simplement un modèle économique qui ne plaît pas du tout, qui ne cadre pas du tout avec l'autorité temporelle du Seigneur et l'autorité religieuse de l'évêque, hein, et bien sûr du pape. Hein. Donc tout ce qui se passe, tout ce qui se développe dans le sud-est là, de la France est quand même très mal vu hein, par les autorités de l'époque. Ça, c'est à la base. Très mal vu à terme, parce qu'au début, bien sûr, il s'agit, on l'a dit, de quelques individus, de quelques communautés. Mais ces communautés se développent de plus en plus. Hein. Et ça, évidemment, ça va commencer à se savoir. Alors en effet, c'est une vie quotidienne qui est basée vraiment sur des aspects de vie collectiviste. Hein. Les cathares se retrouvent dans des maisons collectives. Hein. C'est d'abord un ordre religieux dans le siècle. Alors ça, c'est très mal vu, parce que bien sûr, il s'agit de séculaires, hein, de personnages séculiers, de personnages qui vivent avec les autres, hein, et qui prônent quand même une certaine liberté de pensée. L'office, par exemple, ou les rares offices qui ont lieu, puisque c'est un office extrêmement dépouillé, a lieu par exemple dans la langue vulgaire, le latin, qui est quand même l'autorité absolue de l'époque. Tous les documents de l'époque, du Moyen-Âge, hein, pardon, et même après, tous ces documents vont quand même être en latin. Le latin, au Moyen-Âge, c'est l'anglais de l'époque, hein, l'anglais actuel, l'équivalent de l'anglais actuel, ou du chinois de demain. Hein, c'est la langue de communication internationale, le latin. Or, voilà que se développe une religion, des gens qui se mettent à prêcher dans la langue vulgaire. On est des siècles avant de ce que vont faire les protestants, qui eux, hein, et Luther, hein, qui vont, effectivement, reprendre cette idée de prêcher dans la langue vulgaire. À cette époque-là, c'est encore plus mal vu, vous l'imaginez. Donc ça, c'est un aspect. Parallèlement, on développe l'idée du travail manuel pour avoir des revenus. Bref, pour constituer ce qu'on appelle des maisons de parfait, hein, des maisons de parfait, donc où vont vivre les cathares, hein, et qui vivront surtout en autonomie, c'est-à-dire qu'en effet, ils ne dépendront pas du Seigneur, pas de l'autorité religieuse. Voilà donc désormais des sphères complètement indépendantes les unes des autres qui vont se développer un peu partout dans le sud-est et dans le sud-ouest de la France, dans l'Occitanie. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui va progressivement poser de plus en plus de problèmes, notamment dans la société médiévale, qui, même si elle est une myriade de petits états ou de micro-états, de ces micro-fiefs qui en sont tous indépendants les uns des autres, qui se guerroient régulièrement, néanmoins, voilà quelque chose qui devient une structure indépendante, hein, et qui bientôt peut-être sera la rivale, hein, la rivale du pouvoir du pape et du pouvoir du seigneur, et surtout du roi. Et ça, c'est très, très mal vu. D'autant plus que les cathares développent une vie ascétique, hein, entre ce qu'on appelle les sokhi et les sotia, hein, c'est-à-dire hommes et femmes. Les cathares vont toujours par deux. Hein. Il y a un jeûne très prononcé, plusieurs jeûnes dans l'année, trois carêmes par an. Hein. Et cette pratique surtout de l'endura, hein, c'est-à-dire la capacité de résistance, hein, morale, hein, à beaucoup, beaucoup de choses. La viande n'est pas interdite, hein, mais tout simplement, alors il y a cet aspect évidemment végétarien, mais pas uniquement parce que l'idée est aussi que dans le mouvement cathare, que l'on ne veut pas tuer d'animal. Hein, ne pas tuer d'animal, ne pas manger, comme on dirait aujourd'hui, d'animaux morts. Hein, eh bien déjà là, des centaines d'années avant notre période actuelle, c'était déjà le cas, hein, avec les cathares. Donc en plus, ce sont des novateurs. Et tout cela donc se développe de plus en plus, et d'autant plus que il faut bien le dire, et vous le savez, il y a dans le vieux monde, hein, vous savez que on vit jusque la fin du 19e siècle, hein, en Europe, dans ce qu'on peut appeler le monde ancien. Hein, ce monde ancien, c'est un monde qui a été en continuité depuis l'Antiquité, depuis le Haut Moyen-Âge, depuis l'an 1000, hein, un monde où on vit dans une continuité, pourrions-nous dire, de culture, et dans cette continuité de culture, on le sait bien, notamment la France, la Francie, etc., est partagée en deux, hein, entre la langue d'Oïl qui est au nord, hein, et la langue d'Oc qui est au sud. Déjà, il y a une césure. Et pourquoi cette césure? Tout simplement parce qu'on le sait, le sud, hein, de la France au sens large, faisait partie des fameuses provinces rattachées à la République romaine puis à l'Empire. Hein. C'est un monde latin, hein, profondément, avec des racines extrêmement lointaines. Et puis le nord, on le sait bien, c'est l'ancienne Gaule chevelue, hein, c'est la Gaule des barbares, hein, celle de la guerre des Gaules de Jules César et tout ce qui en a suivi. Hein. Et donc, évidemment, il y a déjà une césure. Et voilà que ce mouvement cathare va être un vecteur, en effet, du creusement de cette division. Et là, ça va poser des problèmes parce que, aux alentours de l'an 1000 et après la grande période carolingienne du 9e siècle, on est dans la reconstitution, hein, de ce qu'on va appeler plus tard le domaine royal. hein, et tout simplement ce qui sera plus tard le royaume de France, mais dans un sens évidemment bien plus modeste que la taille de la France actuelle. Et là, les deux pouvoirs, ces deux pouvoirs, le pouvoir du roi et des seigneurs, hein, ben c'est à Paris, hein, et ce contre-pouvoir qui est en train de se développer dans le Sud, ben vont s'entrechoquer. Et le Sud, ça fait peur. Et pourquoi? Ben, ça fait peur parce que, tout simplement, en Occitanie, ben, de l'autre côté des Pyrénées, hein, ben, c'est pas l'Espagne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ben non, c'est pas du tout ça. Hein. C'est le monde, hein, le monde des morts. Hein, Maure, hein, c'est-à-dire un monde conquis, hein, et dominé, hein, par les musulmans, par ce qu'on appelle, hein, les infidèles, les hérétiques. Et oui, on l'oublie souvent, hein, mais toute cette partie-là, bah, est devenue une frontière, c'est la frontière de la chrétienté. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, hein, vers le XIIe et le XIIIe siècle, bah, on commence à craindre, hein, tout simplement. Hein, on craint, hein, que eh bien, ce mouvement indépendant cathare, là, dans le sud-est, bah, finisse par tout simplement devenir une porte ouverte, hein, aux invasions, hein, qui pourraient bien arriver depuis l'Espagne. Hein, depuis l'Espagne, évidemment, musulmane de l'époque. Alors tout ça commence à fortement inquiéter le pouvoir temporel, le pouvoir du roi, le pouvoir des seigneurs, hein, puis aussi le pouvoir religieux, qui aujourd'hui on n'imagine pas, hein, mais pouvoir religieux qui est considérable, hein, considérable à l'époque, hein, le pouvoir du pape, hein, le pouvoir du monde catholique chrétien occidental est tout à fait considérable. Hein. Vous savez que le monde chrétien à cette époque-là, hein, est divisé en deux, hein, est divisé en deux depuis bien longtemps, depuis le début du Moyen Âge, hein, puisque vous savez que le monde chrétien oriental, bah, est juché sur le pouvoir de l'empereur, hein, de l'empereur évidemment, de l'empire byzantin, de l'empire romain d'Orient. Hein, où à la fois le pouvoir temporel et spirituel est détenu en effet, hein, par le monde orthodoxe. Et puis, côté ouest, si je puis dire, côté occidental, on a ce monde fractalisé de petits seigneurs, mais dans lequel le pape, hein, pardon, seule autorité revendiquée, hein, spirituelle à Rome, hein, exerce évidemment un pouvoir tout à fait considérable. Pouvoir à la fois sur l'empereur d'Occident, qui en fait s'appelle l'empereur du Saint-Empire romain germanique, hein, qui est une autre forme évidemment de suite, hein, de la période carolingienne occidentale, et puis de l'autre côté, hein, bien sûr, cette fractalisation de tous ces États, de tous ces royaumes qui sont en devenir, et dont un quand même, qui n'est pas rien, hein, qui est, bah, le royaume de France. Hein. Le royaume de France, avec notamment à la fin du XIIe siècle, bah, quelqu'un qui s'appelle Philippe Auguste, hein, 1180-1223, hein, c'est évidemment, comme vous le savez, le roi, hein, qui va être à l'origine, hein, tout simplement, bah, du travail de conquête, hein, du territoire même, de la naissance même, de l'identité même, si je puis dire, de ce que sera plus tard le royaume de France, hein, qui va se construire, hein, tout simplement par la guerre, hein, par les alliances et par la guerre. Hein. Un royaume qui va se tailler, hein, au fil des siècles, hein, mais pas facilement. Hein. C'est tout un travail de conquête que va mener Philippe Auguste. Alors évidemment, face à tout cela, on regarde le territoire, on regarde l'Hexagone. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ce mouvement cathare dans le sud-est, hein, qui en effet, hein, eh bien, commence à poser un certain nombre de problèmes. Et ce qui va donner naissance à ce qu'on va appeler la croisade contre les Albigeois, qui sera un massacre épouvantable, une croisade qui va, comment dire, déchirer les chrétiens entre eux, cette croisade contre les Albigeois, qui va probablement être à l'origine, hein, de la césure qui existe encore aujourd'hui entre toute cette région de l'Occitanie et le Nord. Hein, ce sont des choses qui ont marqué les esprits, hein, un peu comme les fameuses guerres de Vendée, hein, la Révolution française, hein, où encore aujourd'hui les séquelles sont considérables, où l'on voit, hein, tout à fait de manière considérable, bah encore un état d'esprit frondeur, hein, des grandes régions de l'ouest de la France, hein, contre évidemment Paris, hein, et le pouvoir central, hein, le monde girondin, hein, pour nous dire, contre le monde jacobin, contre le jacobinisme parisien, contre le jacobinisme du Nord, contre une vision centralisée de l'État qui ne remonte pas à la Révolution française, mais comme vous le savez, justement à la monarchie, hein, évidemment avec comme parangon la période de Louis XIV. On est bien loin de nos cathares et on y revient tout de suite. Quatre conciles vont être à l'origine, tout simplement, de ce mouvement de croisade, contre les Albigeois. Hein, vous avez bien compris, Albi, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fait partie des fameux centres, hein, des fameuses villes, donc contrôlées par les Cathares dont on a parlé tout à l'heure. Quatre conciles. Le premier en 1119. 1119, c'est le pape Calixte II, qui tient un concile. Le concile, donc, c'est une religion, une réunion religieuse, hein, bien sûr. Concilium en latin, hein, concile, donc il tient concile à Toulouse. Toulouse, une des capitales du monde cathare. Toulouse, où ce pape va donc dans une bulle dénoncer les mœurs des cathares, le refus du baptême, l'Eucharistie, hein, qui n'existe pas, le sacerdoce et le mariage, toutes les pratiques parallèles, extrêmement indépendantes et libérales que les cathares ont, eh bien, dans ce concile de Toulouse, en 1119, Calixte II les condamne, espérant que, si je puis dire, la fulmination papale de l'époque aurait suffisamment d'autorité, hein, pour faire reculer ce qu'on n'ose pas encore appeler une hérésie. Second concile, c'est en 1139, 20 ans plus tard. Cette fois-ci, il s'agit du deuxième concile de Latran. Deuxième concile de Latran, où cette fois-ci, l'Église catholique manifeste son inquiétude et lance une série d'inspections dans la région afin de dépister les différents centres cathares qui pourraient se développer. 1163, on continue un peu plus loin, troisième de ces conciles, le concile de Tours, où cette fois-ci le monde cathare est considéré et fustigé comme une église condamnable. 1167, enfin, c'est le concile de Lorgée qui délimite les zones où auront lieu la future croisade. On commence à repérer le terrain, des zones où il va falloir tout simplement repérer les maisons de parfait, les regroupements de cathares afin de bientôt s'en débarrasser. Donc là déjà, ça commence à devenir inquiétant. D'autant plus que les cathares sont faciles à identifier par les inspecteurs catholiques, si je puis dire, envoyés par le pape, parce que le cathare, dans sa religion, dans son système de pensée, refuse de jurer. Donc on lui dit, si tu veux jurer que tu es catholique, eh bien, si la personne refuse, bah, c'est probablement un cathare. Voilà, c'est aussi bête que cela. Au XIIIe siècle, qui suit donc les années 1200 et quelques, ça s'aggrave considérablement, et pour les raisons politiques que j'ai voulu évoquer tout à l'heure avec vous. En effet, le roi d'Aragon, Pierre III, hein, et le comte de Toulouse prennent parti pour les cathares. Et on commence à s'inquiéter de cette fusion entre le pouvoir politique de l'époque et ce mouvement qui ne cesse de se développer, d'autant plus que de l'autre côté, ben, y a la fameuse Espagne mauresque, hein, la fameuse Espagne catholique. On se dit, en effet, la fameuse Espagne, pardon, musulmane, on se dit ben, que ça va devenir dangereux, hein, et que si par malheur les cathares ou un monde catharisé, pourrions-nous dire, du sud-est allait accueillir à bras ouverts les morts, hein, les musulmans d'Espagne, eh bien, on risquerait de provoquer, hein, un peu comme dans le millénaire précédent, un risque d'invasion. Hein, rappelez-vous de Charles Martel, hein, qui avait, comme vous le savez, arrêté les Arabes à Poitiers. Le monde occidental, et notamment du Nord, commence profondément à s'inquiéter autour de ce roi Philippe Auguste qui, lui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a une ambition bien marquée en ce qui concerne le royaume de France, hein, une ambition qui est, comme vous le savez, de tout simplement, hein, justement, fédérer, hein, sous son autorité de plus en plus de territoires, hein, autour de Paris et d'un pouvoir central en devenir. Alors, Philippe Auguste, 1180-1223, Louis VIII, qui lui succède, de 1223 à 1226, et surtout Louis IX, hein, c'est-à-dire Saint-Louis, bien sûr, vous le savez, ce fameux roi qui a participé à tant de croisades, mais cette fois-ci en Terre Sainte, de 1226 à 1270, voilà la chronologie, hein, des monarques, hein, qui vont œuvrer pour la mise en place de cette fameuse croisade, hein, contre les Albigeois. comme l'histoire l'a retenu. Alors cette croisade, bien sûr, contre les Albigeois, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, va démarrer avec un épisode particulièrement sanglant, qui va être ce qu'on va appeler le massacre de Béziers. La ville de Béziers, qui abritait des Cathares, hein, 22 juillet 1209, était tenue donc par les Trencavels, vassaux hein, des comtes de Toulouse, excommuniés par le pape, sans doute en raison de leur trop grande tolérance hein, prétendue envers les Cathares. Et la mémoire donc à Béziers, bitéroise, hein, conserve une place particulière à une date pendant cette période, le 22 juillet 1209. Puisque ce jour-là, eh bien, la croisade contre les Albigeois, contre les Cathares, se traduisit par le sac et l'incendie de Béziers et le massacre d'une partie de sa population. 20 000 hommes auraient été passés au fil de l'épée. C'est un massacre qui, même pour la période que l'on évoque, est tout à fait considérable, puisque le moine allemand Césaire de Heisterbach, dans le livre de Régine Pernoud, précise qu'il est un auteur peu soucieux d'authenticité, relate dans son livre des miracles, je cite, qu'il écrit 10 ans après les faits, Carno Amori, le légat pontifical, donc l'autorité papale, qui participait à cette croisade, à qui on demandait comment, comment dire, à qui on demandait comment différencier les cathares des bons catholiques dans cette ville de Béziers, aurait dit « Tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens ». Je crois que l'histoire a particulièrement, comment dire, retenu cette phrase terrible. Et tout ça va engendrer conquête sur conquête, massacre sur massacre. Toute la région va être mise en coupe réglée. Le tout accompagné du fameux tribunal de l'Inquisition, vous le savez, ce tribunal qui va faciliter aussi la chasse contre les cathares, contre les hérétiques. Tout ça, c'est à ce moment-là que ça apparaît. Ce tribunal qui arrête évidemment les soupçonnés ou dénoncés comme tels et va les torturer jusqu'à ce que, bien sûr, ils renient leur foi. De Qatar, et s'il ne la renie pas, vous savez très bien comment ça se termine, par les fameux bûchers, tout ça commence à cette époque-là. Le moment le plus, épique, voyons-nous dire, le plus dramatique de tout cela, après ce massacre de Béziers, va avoir lieu quelques dizaines d'années plus tard, avec conquête du dernier réduit, contrôlé par les cathares, qui est toute cette série de châteaux que l'on trouve dans les Pyrénées, dont le fameux château de Montségur. Montségur, qui est une véritable forteresse naturelle extraordinaire, située au cœur des Pyrénées, et où là se trouvait depuis le début une communauté cathare. Et les croisés anti-cathares mettent le siège dès 1241 autour de Montségur. Un siège qui va durer de 1243 au 1er mars 1244. Le château sera pris définitivement le 16 mars. Et l'histoire a retenu que 220 cathares ont été brûlés à la fin de la conquête de ce château. C'est l'ultime point de résistance, un très grand symbole, qui encore aujourd'hui a une très grande force, un très grand symbole, et qui fait que les cathares, tout simplement, vont rester dans la légende de toute cette région des Pyrénées. Tout cela, au fil des siècles, va peu à peu tomber dans une forme d'oubli. Et c'est un jeune archéologue allemand du nom de Otto Rahn, R-A-H-N, 1904-1939, qui va se passionner dès sa, de son plus jeune âge, si on peut dire, pour cette question du mouvement cathare. Et pourquoi ? Bah parce que, et on en a déjà parlé dans d'autres émissions sur le roi Arthur, sur le Saint Graal, rappelez-vous, Il y a un des porteurs de la tradition écrite, légendaire, de toutes ces histoires qu'on a évoquées hein, depuis un certain temps sur le Moyen Âge, hein, qui s'appelle Wolfram von Eschenbach, hein, et qui donc va colporter cette histoire, ben, comme quoi peut-être les Cathares auraient été les détenteurs. Alors là, allons donc savoir pourquoi et comment du Graal. Parce que, tout simplement, le château de Monsalva, qui est décrit par Eschenbach dans notamment une de ses légendes qui s'appelle Parsifal, vous savez, qui inspirera Richard Wagner notamment, hein, donc situe dans l'Ariège hein, ce lieu, et Monsalva, et c'est une des théories, aurait été le château de Montségur. Le fameux château donc, que j'évoquais donc avec vous tout à l'heure. Alors, Otto Hahn va, dans les années 30, au début des années 30, se rendre dans la région, faire des fouilles archéologiques, des recherches extrêmement intéressantes. Et il faut le savoir, hein, cela donnera lieu à deux ouvrages, hein, un Croisade contre le Graal, qui sortira en 1933, et un autre plus tard, La cour de Lucifer, en 1937. L'histoire de Otto Hahn va relativement mal finir. Pour quelle raison? Parce que cet archéologue jeune et exalté sera tout simplement récupéré par la propagande nazie. Propagande nazie. Il va se rapprocher de ce mouvement dès 1935 hein, et notamment sera manipulé pour servir tout simplement les théories totalement délirantes hein, de l'ordre noir de la SS, hein, voulu par le bras droit d'Hitler, qui s'appelait Himmler, et qui n'auront de cesse hein, que de vouloir retrouver le fameux Graal. Bien sûr, vous l'avez compris, ils ne le retrouveront jamais. Otto Hahn se suicide en 1939. En principe, des théories disent qu'il ne se serait pas suicidé, qu'il aurait été en fait changé d'identité sous le nom de Rudolf Hahn, Rudolf Hahn plutôt, ensuite, qui serait mort en 1975. Mais peu importe, cela montre néanmoins, et cela va nous amener vers la conclusion de cette émission qui effectivement sera moins longue que les émissions précédentes aussi, vers l'idée que finalement, ce qu'il faut retenir, hein, probablement, des Cathares, de cette culture, avant la lettre, hein, autour quand même du 10e, 11e siècle, 12e siècle même, qu'on a là la manifestation en plein dans un Moyen Âge particulièrement pyramidal, particulièrement, comment pourrions-nous dire, autoritaire, sans vraiment que la liberté de penser puisse exister. Hein. Eh bien, on a vraiment là une vergence tout à fait intéressante d'un état d'esprit différent. Et que ce que l'on voit, ce qu'on verra plus tard aussi avec la réforme protestante, que même si le pouvoir puissant hein, de l'époque tente d'abattre hein, cette pensée autre, hein, et bien que finalement ça ne marche pas. Hein, même 20 000 morts à Béziers, hein, tuez-les tous, encore aujourd'hui, laissent des traces tout à fait profondes. Hein. Et que ce mouvement cathare, hein, dans le néo-catharisme actuel, hein, que je vous disais tout à l'heure, qui existe, hein, bah, tout simplement montre hein, que l'identité culturelle hein, d'un espace géographique bien déterminé eh bien, subsiste, hein, subsiste et subsistera toujours, d'autant plus que bah, ce mouvement cathare, hein, tout simplement, fait appel hein, donc à une notion tout à fait, comment dire, ancrée dans chaque être humain, hein, qui est, même à cette époque-là, une profonde, une profonde aspiration à une liberté de penser, hein, à une volonté de penser autrement. Alors évidemment, face au pouvoir, hein, de plus en plus important, hein, des Capétiens, face à un monde, comment dire, médiéval où le pouvoir du roi va de plus en plus s'affermir autour de ses vassaux, autour des seigneurs, hein, et un pouvoir profondément chevillé, hein, au pouvoir de l'Église, hein, et de l'Église officielle, il n'y a pas beaucoup de place, on l'a vu, hein, pour une liberté de pensée et une liberté autre. Mais néanmoins, et c'est ça que montre, je crois surtout, bien au-delà de toutes les légendes auxquelles on a pu penser, hein, bah, ça montre, hein, que justement, cette région-là, eh bien, a pu voir se catalyser à travers ce vecteur du catharisme, hein, eh bien, son identité. Identité qui encore aujourd'hui subsiste, puisque bien sûr, aujourd'hui encore, eh bien, il y a vraiment une césure, hein, entre ce monde du Sud et ce monde du Nord. Hein, notamment une césure qui se matérialise souvent par de la contestation par rapport à tout ce qui est décidé, hein, dans la capitale jacobine Paris, hein, par le centralisme parisien, qui remonte à bien autre chose et à bien avant que la Révolution française. Ultime chose peut-être que nous pouvons dire, c'est que la grande répression qui suit, ben on la connaît, elle est au XIVe siècle, hein, au début du XIVe siècle, un siècle plus tard à peu près, hein, à peu près un siècle, hein, 1307 pour les Templiers, 1219 pour les Cathares, ben c'est justement la liquidation d'un autre contre-pouvoir, hein, qui était l'ordre du Temple. Hein. Vous vous souvenez, l'ordre du Temple, on a parlé plein de fois dans ces émissions, le fameux ordre du Temple qui avait son utilité quand il assurait la sécurité, hein, des pèlerins en Terre Sainte, puis quand les croisades se sont terminées, quand il n'y a plus de Terre Sainte à défendre, bah, ils sont devenus un énorme contre-pouvoir. Et eux aussi, au début du XIVe siècle, bah, là, c'était plus Philippe Auguste, hein, c'était plus Saint-Louis, hein, c'était Philippe le Bel, hein, un de ses arrière-petits-fils, hein, et les Templiers se sont mis à gêner aussi, hein, l'affermissement de ce pouvoir royal. On peut vraiment dire, hein, que le mouvement cathare, hein, et les Templiers, même s'ils n'ont pas grand-chose à voir entre eux, paraît-il que les Templiers, ce sont des choses qu'on raconte, auraient aidé les cathares, notamment, n'auraient pas du tout voulu participer à ces mouvements de croisade contre d'autres chrétiens, hein, parce que l'idée des Templiers, c'était quand même de combattre, oui, mais les infidèles, c'est-à-dire autres que chrétiens, hein, une différence dans le christianisme, c'était peut-être pas forcément l'envie des Templiers que de la combattre, hein. Eh bien, en effet, on peut dire que le mouvement cathare, au XIIIe siècle, les Templiers au début du XIVe siècle, sont vraiment deux écueils, hein, qui sont éliminés sur la route, hein, de la mise en place d'un pouvoir monarchique qui va aller en s'affermissant pendant tout le Moyen Âge, hein, et qui va combattre profondément aussi d'autres mouvements d'opposition, comme la réforme protestante, comme d'autres qui vont avoir lieu après le Moyen Âge. C'est l'éternelle lutte, hein, de ce monde ancien, et allez donc savoir si c'est le monde ancien, parce que finalement, quelque part, ce combat se perpétue encore aujourd'hui, hein, entre tout simplement, eh bien, la pensée unique, hein, quelque part, la pensée monolithique, hein, et puis ceux qui prônent la différence, la liberté de penser. Hein. Est-ce que quelque part, eh bien, tout simplement, nous n'avons pas là des préfigurations de ce que sera plus tard, tout simplement, l'humanisme, hein, et la naissance vraiment, ou le devenir, hein, de ce que l'on peut appeler les femmes et les hommes libres. Sur ce, je vous laisse méditer cette petite émission sur les cathares. Il n'y aura pas d'émission en décembre, malheureusement, car la période coïncide au niveau du calendrier avec les fêtes de Noël. Je vous souhaite donc de très belles fêtes de Noël à toutes et à tous. Des fêtes pleines de lumière. Cette période de Noël est une période propice pour justement montrer notre amour envers les uns et les autres. Et nous nous retrouverons fin janvier, autour autour d'une prochaine émission. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à toutes et à tous. Je vous remercie celles et ceux qui ont écouté cette émission en direct et bien sûr celles et ceux qui la réécouteront, je l'espère, en podcast. C'était Histoire du soir avec Olivier et émission donc du 24 novembre 2016. Au revoir et à bientôt.